Démocratiser et vulgariser le livre. C'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que je veux dire par ces termes qui peuvent paraître assez flous, oui, c'est de permettre l'accès du livre à tous. Chaque livre, c'est un univers. Et justement, la vulgarisation du livre, c'est aussi donner envie de bouquiner à des personnes qui n'en ressentent ni l'envie, ni le besoin. Au sommaire, un peu d'histoire, des partages de lecture sur les réseaux sociaux, l'influence des médiathèques, mais aussi les nouvelles façons de lire. Enfin, on va parler également de l'achat de seconde main. Un peu d'histoire, c'est nécessaire pour se remettre dans le contexte. Le 9 février 1953 est une date française importante dans l'histoire de la démocratisation du livre. Ben oui, c'est la naissance du livre de poche en France. En France, parce que le livre de poche avait déjà fait son apparition en Angleterre et aux États-Unis. C'est Henri Filippacci qui s'inspire du pocketbooks américain. Aux côtés de Guy Scholler, il lance le livre de poche. Donc on peut dire quand même que c'est en partie grâce à Henri Filippacci que nous pouvons acheter aujourd'hui des livres à moins de 10 euros. Désormais, le livre de poche règne dans les librairies. Il est même devenu normal à nos yeux. Mais il est quand même important de souligner que lors de sa création, ce livre de poche a suscité quelques controverses. Célébré ou méprisé, la naissance du bouquin qu'on peut transporter partout à moindre coût n'a pas fait l'unanimité. Marcel Pagnol célébrait cette initiative.
Le livre de poche est un phénomène social, n'est-ce pas ? C'est un fait social d'une importance capitale. Ce qui m'a étonné aussi, ce sont les tirages des grands classiques et des anciens classiques. La vie des 12 Césars de Suétone a tiré à plus de 100 000, ça je le savais. Et je pense que depuis sa naissance, Suétone n'avait jamais tiré à 100 000. C'est d'une importance capitale. C'est parce que, supposez qu'un ouvrier ait envie de lire Suétone, d'abord ça m'étonnerait parce qu'il ne le connaît pas. Et même s'il le connaissait, que faut-il qu'il fasse ? Il faut qu'il aille chez des maisons spécialisées pour acheter un livre qui coûte en général assez cher. C'est-à-dire que là, il le voit chez un marchand de journaux. C'est ce qui vous explique ces tirages fabuleux et Rimbaud. On vient de me dire que Rimbaud a tiré à 120 000. Verlaine aussi a tiré à 120 000. C'est un moyen de culture qui est presque aussi puissant que la radio ou la télévision.
Tout le monde n'est pas de l'avis de Marcel Pagnol. En effet, des écrivains tels que Henri Michaud ou Julien Gracq se dressent contre le livre de poche. Ils estiment que la culture, ça se mérite. L'opinion publique est également partagée. Je vous laisse écouter tout de suite un étudiant en médecine qui favorisait une aristocratie des lecteurs en 1964.
Que pensez-vous du livre de poche ?
Beaucoup de mal.
Pourquoi ?
Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains.
On ne peut pas vivre sans un livre dans sa poche. C'est le slogan créé par Henri Filippacci pour mettre en avant sa création. Il faut avouer que ce slogan est quand même très loin de la décision du gouvernement lors du premier confinement. Oui, je vous rappelle que les librairies étaient catégorisées comme commerce non essentiel. Alors, essentiel, non essentiel, le débat reste ouvert. Vous pouvez y réfléchir, mais ce n'est pas l'objet de ce reportage. En attendant, je vous propose d'écouter tout de suite les conseils lecture d'une arageoise qui se considère comme une lectrice moyenne. Ce sera peut-être utile pour ceux qui nous écoutent, qui veulent se mettre à lire, mais ne savent pas par où commencer.
Quel est le livre que vous recommanderiez à quelqu'un qui ne lit absolument jamais ?
S'il lit jamais, c'est difficile à faire lire quelqu'un. C'est, je sais pas, qu'il commence déjà par un truc policier ou un truc qui les attire, quoi. Quelque chose qui... Moi, c'est plus... c'est True Light, des trucs de loup-garou, des trucs d'amour, mais après, ça dépend. Mes enfants, c'est des mangas. Ils lisent beaucoup de mangas. Et ma fille, c'est beaucoup de japonais. Ça fait que quelqu'un qui lit pas, c'est difficile.
Oui, donc tout dépend de ses goûts, en fait.
Voilà. C'est le goût de la personne.
C'était les conseils lecture d'une arageoise. Si vous voulez d'autres conseils lecture, rendez-vous sur YouTube. Parce que oui, on peut trouver des passionnés du livre qui partagent sur YouTube leur avis concernant les derniers bouquins qu'ils ont lus. Partager ces lectures sur YouTube, c'est une façon de donner des idées lecture aux passionnés qui les regardent, mais aussi, peut-être, de faire germer l'amour du livre dans le cœur des plus sceptiques. Sachez qu'il n'y a pas que sur YouTube que les amoureux des mots sont actifs. On les appelle bookstagrammeurs, mais qui sont-ils ? Comme le nom anglophone l'indique, ce sont des instagrammeurs qui parlent de livres. Ils postent donc des photos sur Instagram, des photos de leurs bouquins et proposent des chroniques à leurs abonnés. J'ai recueilli le témoignage de 5 bookstagrammeurs. Pour résumer, ce qui réunit ces 5 personnes, c'est l'amour de la littérature. Ils choisissent généralement leurs livres selon leurs envies du moment. Ils passent en moyenne 2 heures par semaine pour créer leur contenu et dépensent en moyenne entre 30 et 100 euros par mois pour acheter des bouquins. Ils ont créé leur compte Bookstagram par passion, par envie de partage, pour rencontrer des gens ou par volonté de préserver le patrimoine littéraire. La question que je me suis posée est la suivante. Parler de livres sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un moyen d'attirer un spectre plus large de lecteurs ? Ou c'est plutôt des personnes déjà passionnées qui vont regarder notre contenu ? Ce qui est revenu pour les 5 personnes interrogées, c'est qu'ils s'adressent principalement à des lecteurs déjà initiés. Ce phénomène serait donc plus un moyen de partage entre initiés qu'une façon de vulgariser les bouquins. Une des bookstagrammeuses interrogées, étant aussi bibliothécaire, m'a fait part de son ressenti. Elle trouve qu'elle arrive beaucoup plus à démocratiser le livre par le biais de son métier que sur les réseaux sociaux. Elle a fait de nombreuses rencontres sur Bookstagram, mais le public étant presque toujours le même, de fervents lecteurs. J'ai donc voulu vérifier si les médiathèques participent plus à la démocratisation du livre que les réseaux sociaux. Pour ce faire, je me suis rendue à la médiathèque Verlaine, située au quartier ouest d'Arras, pour interviewer un chargé de collection. Je lui ai posé quelques questions sur la démocratisation du livre.
D'après vous, est-ce que la médiathèque permet d'avoir accès à un spectre plus large de lecteurs ou est-ce qu'elle s'adresse plus à un public déjà passionné ?
Alors aujourd'hui, en fait, on a les deux cas. On a donc du coup du public qui est déjà habitué aux médiathèques et qui est habitué à l'univers du livre. Et on a aussi un nouveau public qui s'intéresse surtout aux nouveaux médias, dont le média numérique.
Et du coup aussi les nouveaux livres, un peu manga, BD, etc.
Oui, on a toujours des passionnés de manga. On a l'avantage sur la jeunesse, en fait, d'avoir énormément d'enfants qui demandent beaucoup de manga aujourd'hui.
Si vous avez un seul livre à recommander à des personnes qui ne lisent pas, quel serait ce livre ?
Aujourd'hui, je conseillerais justement les livres d'Arsène Lupin, simplement parce qu'il y a une grosse reconnaissance au niveau de la série aujourd'hui et ça attire énormément de jeunes.
Et du coup, en genre littéraire, ce serait quoi ?
Moi, je m'orienterais sur la science-fiction. On est très loin justement d'Arsène Lupin, mais je trouve que c'est un univers particulier qui intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui.
Est-ce que devenir chargé de collection a changé votre rapport avec la lecture ?
Oui, plutôt. J'étais déjà bon lecteur, mais je le suis encore plus aujourd'hui.
Pensez-vous que les booktubeurs, bookstagrammeurs participent à vulgariser le livre?
L'avantage, c'est qu'ils mettent en avant énormément de livres que beaucoup de personnes n'auraient pas pensé à consulter auparavant. Et ça permet aussi de diffuser de façon très actuelle, que ce soit les nouveaux médias littéraires ou même les anciens médias.
Et que pensez-vous du livre numérique?
Je trouve que le livre numérique a beaucoup d'avantages, essentiellement de l'avoir dans la poche de façon continue. Et ça permet à beaucoup de personnes d'avoir un accès très facile et très rapide à la culture littéraire.
Et le livre audio ?
Le livre audio, c'est très bien, surtout dans la voiture, quand on a l'occasion de faire pas mal de bornes chaque année. Après, de façon plus décontractée à la maison, ça peut être bien.
J'ai également interviewé François, coordinateur de l'association Colère du Présent. Il participe à démocratiser le livre et il nous en fait son expérience.
Alors l'association Colère du Présent a 20 ans et c'est une association qui a deux objectifs, faire connaître une littérature différente, en prise directe avec les éléments du social et du quotidien, de l'histoire, des questions d'aujourd'hui, et amener les gens à la lecture et à l'écriture.
Donc, on va dire que c'est une association qui participe à la démocratisation du livre.
Oui, c'est ça. On met en place énormément d'actions d'éducation populaire autour du livre. Donc, on veut parler effectivement de démocratisation de tous les outils et les armes de construction massive que sont les livres notamment.
Et quels sont vos projets, vos actions que vous mettez en place ?
Fou ! Il y en a beaucoup. Atelier d'écriture, atelier de conception de livres, mise en place de débats collectifs, le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, tous les 1er mai à Arras, des prix. Les prix littéraires, prix Ami Lamecker, donc ça sur la littérature adulte, prix Ado en colère, pour amener à peu près 500 adolescents, collèges et lycées, à lire des livres en prise directe aussi avec les questions de société. Voilà, on fait à peu près une centaine d'événements sur l'année.
En parlant de prix, il me semble que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer.
Exactement, oui, justement sur ce volet démocratisation du livre et accès de tous à la culture, la SOFIA nous a remis le prix de l'innovation. C'est un prix qui vient consacrer après notamment nos actions en 2020 d'adaptation du Salon du Livre à une version numérique pour continuer à agir en faveur du livre et la lecture. Et la SOFIA, c'est un organisme national qui a pour objet la récupération du droit de prêt en bibliothèque et dans les autres supports numériques. Et donc cet organisme national finance les événements dans le monde, dans la France entière plutôt quand même, faut pas exagérer. Et donc on était cinq associations dans toute la France avoir reçu un prix. Et nous, donc à Arras, il y a eu une association à Clermont-Ferrand, une autre à Orange, une quatrième à Toulouse et une cinquième, je crois, en Ile-de-France. Et voilà, c'est les seuls de l'année à avoir été nominés et d'avoir reçu le prix. Donc on est très contents d'avoir reçu ce prix.
Est-ce que tu trouves qu'il existe un certain élitisme dans le milieu littéraire ?
Le livre représente, par définition, la domination symbolique d'une certaine culture, la culture dominante. Le livre représente symboliquement tout un ensemble de privilégés et de savoir inculqué à l'école, par exemple, et que l'on retrouve dans une culture classique, bourgeoise. Donc, il y a cet élément-là. Et nous, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de détruire ou de casser ou de débrécher un maximum cette image pour montrer qu'en fait, le livre, c'est accessible à tous. Un livre, c'est quoi ? C'est du papier, de l'encre, de la colle, du carton, et c'est pas beaucoup plus que ça. Ce sont quelques lettres sur une page blanche, et ça fait des mondes entiers. Ce sont quelques dessins, quelques traits, et on est parti à l'aventure. C'est ça, le livre. Redonner ce souffle, cette possibilité de partir ailleurs ou de réfléchir autrement le monde, c'est ça le livre. Donc si on réussit à détruire cette barrière symbolique liée au livre, eh bien on fait œuvre de démocratisation culturelle.
D'après toi, BD, manga, est-ce que ça participe à la vulgarisation du livre ? Qu'est-ce que tu penses de ceux qui estiment que non, ce ne sont pas des livres ?
Alors je pense que la question n'a pas de sens, parce que la BD et le manga sont des livres. Lire des mangas, lire de la BD, lire du roman graphique, lire, c'est lire. Et lire une image ou lire un texte, c'est toujours autant lire. On peut lire une photo aussi, ça se lit une photo. Ça raconte des histoires. Notre capacité à s'inventer des mondes, elle peut passer par ces différents médias. Donc pour moi, il y a pas de question. Lire, c'est du manga, c'est de la BD, c'est du roman, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, ce sont les livres.
Si tu devais conseiller un livre ou un genre littéraire à quelqu'un qui ne lit absolument jamais, quel serait-il ?
Je conseillerais aucun livre, aucun genre littéraire. Je conseillerais d'aller sur les salons du livre ou dans les librairies et puis de se laisser porter par son envie. En fait, on regarde la couverture, on touche le papier, on regarde comment c'est fait dedans. Et puis si on lit la quatrième de couverture si on veut vraiment savoir ce qu'il y a dans le livre. Et puis si ça nous intéresse, on y va. C'est pas une prise de risque très grave ou très importante. C'est juste la possibilité de se laisser embarquer. Et donc, plutôt que de conseiller vraiment un titre qui, moi, me touche, je pense que c'est la meilleure solution, c'est d'aller dans les endroits où, justement, on a le tout possible, que sont les librairies ou les bibliothèques.
Peux-tu me donner le nom d'un auteur qui, selon toi, a participé à la démocratisation du livre ?
En fait, ta question, elle est compliquée, parce qu'à partir du moment où un auteur est publié, le fait qu'il soit publié en de nombreux exemplaires participe aussi de cette démocratisation. Après, il y a la médiation qui fait que on développe la lecture, etc. Donc là, c'est difficile de... Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'engagent au-delà du seul fait d'écrire. Et ils s'engagent aussi dans des actions, je pense à Daniel Pénac, des gens comme ça, qui Marie Desplechin, voilà, qui vont animer des ateliers d'écriture, Thierry Moral dans la région, par exemple. Ce sont des gens qui ont cette passion de la chose écrite, de ce que ça produit, et donc qui vont porter des ateliers d'écriture ou de lecture. Et donc, c'est là qu'on a vraiment des gens qui sont à la fois des créateurs, des penseurs, mais aussi des acteurs de terrain. Voilà, s'il faut des noms, t'en as déjà trois.
Donc en fait, ce sont vraiment des auteurs qui, au-delà de l'écriture, participent à une action concrète dans la rencontre avec les autres, etc. C'est ça ?
Oui, on peut le voir comme ça. Après, ça peut être... Il y a pas mal de salons du livre qui sont portés aussi par des auteurs, par exemple. Il y a pas mal de gens qui sont acteurs du livre et qui créent des formes de médiation. En fait, cette question de démocratisation, elle est assez complexe parce que il y a plusieurs notions dans cette notion. En fait, l'accès au livre passe par différents endroits. Et donc, voilà, les auteurs eux-mêmes ne sont pas forcément ceux qui vont donner l'accès au livre. Mais ils peuvent y participer. Et donc, ils participent par ces animations, ces rencontres, ces débats, ou par des organisations plus structurées autour desquelles ils agissent.
Tu parlais de différents endroits. Mais justement, il existe de plus en plus de boîtes à livres. Donc, c'est un concept qui permet de lire gratuitement, car les gens peuvent déposer des livres que les passants peuvent emporter. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, ça, je pense que c'est vraiment formidable. Et c'est justement l'inverse de ce qui est possible avec le numérique. C'est qu'avec le numérique, on essaye d'accroître la propriété sur un livre, un objet, qui en plus appartient au diffuseur et non pas au lecteur. Si le diffuseur décide de l'enlever de son catalogue, le lecteur ne l'a plus dans sa tablette. Là, les boîtes à livres, c'est un peu une résistance. C'est permettre la circulation du livre. C'est un peu comme les librairies et les bibliothèques. C'est-à-dire que ça rend disponible des bouquins à tous ceux qui souhaitent les découvrir. Et donc je trouve que c'est super. Et puis il y a beaucoup d'étagères remplies de livres qui ne bougent plus. Autant leur donner à nouveau les possibilités de s'animer.
Penses-tu qu'un jour le livre numérique remplacera totalement l'objet livre ?
Alors, on a dit ça de la cassette audio par rapport au vinyle, on a dit ça du CD par rapport à la cassette audio, on a dit ça du numérique par rapport au CD, et puis on revient au vinyle. Non, ça se... Il y a des lecteurs de livres numériques, moi j'en lis. Tous les services de presse, tous les livres que je reçois avant les rentrées littéraires, c'est beaucoup de livres numériques. Je les préfère lire sur papier, mais d'autres préfèrent lire sur... Donc je pense que les deux peuvent cohabiter. Après, c'est pas tant la question du support que la question de l'économie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que pour l'instant, l'industrie du livre n'est pas encore prête à basculer complètement dans le numérique parce que c'est d'autres acteurs du livre qui pourraient intervenir. Et donc, on a aussi cette question économique qui est derrière. Après, sur la question des usages, tant qu'on lit, voilà, ça peut être sous n'importe quel format. Ça a été du papyrus, ça a été la tablette d'argile, ça peut être une tablette numérique. On reste sur les tablettes, d'ailleurs. Pourquoi pas ?
Penses-tu qu'Internet participe à la démocratisation du livre ?
Alors ça, c'est une question complexe. Tout dépend après ta définition du mot démocratisation. Mais Internet, ça participe d'une redéfinition des rôles. Il y a des livres qui sont écrits à plusieurs. Donc ça repense la notion d'auteur. On peut être auteur multiple. Wikipédia, c'est une encyclopédie à auteur multiple. Qu'est-ce que ça veut dire être auteur ? Ça redéfinit la notion de l'objet, livre. Qu'on a essayé de déterminer, je crois que l'UNESCO avait établi qu'un livre c'était 48 pages minimum reliées entre elles. Bon, on est passé à autre chose. Avec Internet, avec le numérique, on est passé sur d'autres formats. Et donc le livre, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Sur la question de la lecture, on est passé sur des capacités de lecture différentes. On peut rendre audible un texte écrit ou rendre écrit un texte sonore. Enfin, il y a des capacités qu'on n'avait pas. Il y a la transformation entre l'image et le texte. Il y a le jeu. Dans le numérique, sur Internet, on peut jouer, par exemple en BD, à rentrer dans une image et dans l'image, avoir une nouvelle image. Il y a des gens qui sont en train de créer des nouvelles BD qui ne seront jamais traduites en papier parce que c'est vraiment pour l'outil numérique. Donc Internet, c'est une sorte de tout possible. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Et ça dépend aussi, on parlait d'économie juste avant, de ce qu'on va réussir à faire gratuitement parce que l'enjeu est là aussi. Sur la question de qui possède Internet et comment posséder les circuits de diffusion. Parce que c'est aussi un miroir au fantasme. On a l'impression que parce que notre livre va être sur Internet, il va toucher un plus large public que s'il était dans les circuits traditionnels. Bah, c'est faux, en fait, parce qu'il y a des circuits aussi de communication sur Internet. Il y a des manières de fonctionner. C'est pas parce que tout à coup on a décidé de publier un bouquin qu'on trouve des lecteurs. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc Internet, ça permet de réinventer complètement cet univers du livre.
Et il y a les réseaux sociaux aussi. Instagram, YouTube, les passionnés peuvent parler des livres. Est-ce que tu penses que c'est une démocratisation ou plutôt des passionnés qui parlent entre eux au final?
C'est les deux. À cet endroit-là, c'est très intéressant. Ce qu'on voit, c'est que ça permet les réseaux sociaux, la diffusion des petites formes, des formes brèves. Le poème, la nouvelle, retrouve un endroit de diffusion. En fait, on se remet à lire de la nouvelle, beaucoup actuellement, parce que ça correspond aussi à soit des formats de transport bref, soit une lecture sur écran. On va pas lire les 3500 pages sur un écran. C'est beaucoup plus complexe. On va lire des petites formes. Et donc, on retrouve chez les maisons d'édition une autre manière d'utiliser ces supports, notamment la nouvelle, qui retrouve des lecteurs. Donc, c'est à la fois un endroit où on peut effectivement échanger. Le réseau social, il est basé là-dessus. Où on peut aussi donner ses coups de cœur. Et puis, en plus, on peut être suivi pour ça. Il y a plusieurs booktubeurs, par exemple, ou youtubeurs qui sont devenus hyper connus sur les livres. Donc, ça, voilà, c'est devenu aussi une forme de médiation. Mais c'est aussi une forme d'usage. Le réseau social, Instagram, Facebook, etc., sont aussi des supports pour la lecture et la découverte des auteurs. Et d'ailleurs, à Lille, il y a une expérimentation avec l'agence du livre et la métropole européenne de Lille, s'appelle Bibliomobi. Bibliomobi, ce sont des créations BD et romans et nouvelles, spécialement pour les téléphones portables, pour les temps de trajet en métro. Donc voilà, on peut réussir à adapter aussi ces supports, ces réseaux à la création.
Après avoir eu l'avis de François sur les nouvelles façons de lire, il me semblait intéressant de s'y attarder un peu plus. BD, manga, livres numériques ou encore livres audio, ces nouvelles façons de lire sont de plus en plus mises en avant. Pour ceux qui aiment les films, la bande dessinée est faite pour vous. Un peu comme le cinéma, les dessins vous permettent de vous immerger totalement dans un univers. En plus, il existe des BD en tout genre. Frédéric Loger propose une BD intitulée La Bataille, Arras, 1917. Une façon d'en connaître un peu plus sur notre ville, mais aussi sur l'histoire. Le tout en s'amusant. Pour les intéressés, cette bande dessinée est disponible à la médiathèque Verlaine à Arras. Les BD proposent des sujets divers et variés. C'est pour ça qu'elles plaisent de plus en plus. Et puis,
Qui a dit qu'elles étaient réservées uniquement aux enfants? Le lecteur n'a-t-il pas tous les droits? Il peut même sauter les pages des descriptions trop barbantes. La BD permet de s'intéresser à des sujets actuels ou même engagés. La différence invisible est un livre graphique qui évoque l'autisme Asperger. L'auteur, Julie Daché, y raconte sa propre histoire. C'est donc un témoignage illustré. Les dessins de Mademoiselle Caroline illustrent parfaitement et avec originalité ce mal invisible. On peut donc s'intéresser à des sujets extrêmement sérieux, avec comme support la bande dessinée. Alors, les idées reçues au tiroir. Qu'importe le livre, qu'importe son format, il développera votre imaginaire et aussi votre vocabulaire. Avez-vous pensé à utiliser la BD pour apprendre une nouvelle langue? C'est possible, facile, rapide. Et puis, c'est pas très cher, hein, parce qu'il me semble qu'un prof particulier pour apprendre une langue, c'est pas donné. Parlons des mangas. Si votre télévision est constamment allumée pour regarder vos animés préférés, pourquoi ne pas vous lancer vers les mangas format livre? Ça pourrait être sympa de comparer le format télévisé au format livre. Vous pouvez apprendre des nouvelles croustillantes sur vos personnages préférés. Généralement, le livre sort avant le film, donc c'est aussi un moyen de canaliser sa patience. Il y a aussi une autre façon de lire. Ou plutôt d'écouter. Oui, je parle du livre audio. Ça, c'est idéal pour tous ceux qui disent « Mais moi, je n'ai pas le temps de lire ». Vous pouvez écouter des livres en faisant votre ménage, en conduisant ou en préparant la cuisine. Imaginez le nombre de livres que vous pouvez écouter alors même que vous continuez toutes vos occupations quotidiennes. Pourquoi rester sur des mauvais souvenirs de lycée? Tous les livres et toutes les façons de lire ne sont pas indigestes. C'est juste qu'il faut trouver son truc. Le livre change, il évolue. C'est une façon de se démocratiser. Justement, à ce sujet, je vous propose d'écouter le témoignage d'un lecteur pour qui la lecture n'a pas toujours été une évidence.
Considérez-vous comme un petit, moyen, grand lecteur ou pas lecteur du tout?
Très petit lecteur, très petit lecteur. Ouais. C'est la lecture depuis peu. Je suis passé à l'époque de chimiste où j'étais scientifique, je lisais rien du tout. Et puis là, maintenant que je suis devenu comédien depuis très peu, en fait, je me rattrape, on va dire, justement, dans cet amour du mot, de la lecture, même du langage en soi.
Quand vous dites que vous êtes un petit lecteur, vous lisez en moyenne combien de livres par mois?
Par mois, je dirais 3 à 4 livres, mais ce sont des pièces de théâtre, donc c'est des livres qui se lisent en une heure, deux, pas maximum en fait en soi. Après, des gros livres comme ça, je peux mettre facilement 2-3 mois.
Mais est-ce que vous savez qu'on considère un grand lecteur à partir de à peu près 20 livres par an? Donc au final, vous y êtes, si vous êtes à 3-4 livres par mois.
Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire ça, c'est très récent, mais j'accepte.
J'ai quelques questions par rapport à la démocratisation du livre. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles façons de lire? Le livre audio, le livre numérique?
Je trouve ça très intéressant, ça met en exergue énormément de choses, justement pour des gens, par rapport à cette accessibilité, par rapport à des livres, le fait de lire pour des personnes, justement, de rentrer dans quelque chose, c'est assez compliqué de pouvoir se plonger là-dedans. Et le fait, justement, d'avoir des livres audio, comme vous dites, justement, que les gens puissent l'entendre via des personnes qui savent lire, justement, qui savent faire sortir les mots autres que vous, si vous deviez, justement, sortir chaque phrase comme écrite, essayer de les comprendre, ces personnes-là sont là pour aider les gens, et je trouve ça formidable, en fait.
Et que pensez-vous des bandes dessinées?
Les bandes dessinées, c'est la vie. Les bandes dessinées, justement, c'est une autre façon de lire qui, forcément, va peut-être un petit peu moins faire marcher l'imaginaire des gens, justement, par rapport à la lecture, avec justement simplement des mots, et c'est les gens qui font leurs images dans leur tête, mais ça retranscrit très bien une action, beaucoup mieux que ce qu'on pourrait croire, et avec cet art-là, justement, nouveau, que l'auteur amène en plus, que le dessinateur amène quelque part, c'est aussi un style en plus que lui veut amener, comme lui le voit, et donc ça se rapproche un petit peu comme dans un film avec un réalisateur qui vous montre un film, comme lui veut le créer, et comme lui veut que vous le voyez. C'est un petit peu la même chose, je trouve. Beaucoup de gens, justement, entre guillemets, sont assez médisants, justement, par la bande dessinée, comme quoi ce ne sont pas des lectures, même les mangas, hein, même le style japonais et tout ça, je trouve qu'ils ont tort, c'est un autre rapport, c'est comme les livres audio finalement, un autre rapport justement à la personne, au lecteur, que je trouve assez formidable justement que ce soit vu comme tel en fait, mine de rien, pour nous tous.
Quel est le livre que vous conseillerez à quelqu'un qui ne lit jamais?
À quelqu'un qui ne lit jamais? Ah, très intéressant. Je pense qu'il faut un livre qui soit déjà simple et court pour que justement il puisse se dire j'ai fini un livre. Ça, rien que cette image-là de se dire j'ai lu un livre et pas seulement j'ai commencé et j'essaie de le finir, et puis finalement il le repousse à des mois et des mois. Donc un livre très court, et en l'occurrence je pense que les pièces de théâtre sont hyper hyper fortes pour ces choses là parce que finalement ce sont simplement des lignes de dialogue et l'action est très visible, l'action est extrêmement visible, et donc à partir de là on peut taper sur beaucoup d'auteurs, notamment du Molière ou du Racine, mais forcément les langues vont pouvoir être un petit peu plus dures aux personnes, pour des alexandrins ou quoi que ce soit, et à partir de là je vais plutôt les conseiller vers du théâtre contemporain ou en tout cas un petit peu plus contemporain, et en l'occurrence un livre d'Eugène Ionesco par exemple, La Cantatrice chauve, qui est de l'absurde comme pas possible et hilarant. Et ça, justement, ça peut emmener le spectateur à se dire un livre peut me faire lire, donc un livre peut me faire rêver, un livre peut m'emporter. Et notamment dans notre génération où on est très pris par on n'a pas le temps, donc ne serait-ce qu'ils regardent des vidéos YouTube, ils sont divertis, mais il faut que ça dure une minute pour que ce soit très rapide et que le montage soit fait là-dessus. Et je pense que du coup, Eugène Ionesco, la cantatrice chauve, serait le plus pertinent.
Est-ce que vous pensez que les booktubeurs participent à la démocratisation du livre ou vous pensez qu'ils s'adressent plus à des passionnés?
Non, à la démocratisation évidemment, mais c'est comme n'importe quel youtubeur qui ferait des critiques de tout, des critiques de films, des critiques de youtubeurs, des critiques de musique, n'importe quoi. Le livre fait partie justement de cet apport-là, c'est quelque chose d'artistique. Un booktubeur va donc apporter déjà un avis subjectif à la chose par rapport à justement ce qui le passionne, ce qu'il aime beaucoup, ce qu'il retrouve justement même dans la technique de la littérature, dans l'écriture, dans le style, beaucoup de choses. Et ces choses-là justement, ce sont des personnes qui vont apporter justement une vision à quelqu'un d'autre et qui vont les aider justement à voir le livre autrement. Et donc pour moi, c'est limite indispensable, c'est limite très bien que ça puisse être démocratisé de la sorte en fait, je trouve ça génial.
Concernant l'accès aux livres, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire que lire ça coûte trop cher. Bon ok, ça coûte cher si on achète toujours les nouveautés. Le livre grand format, dès sa sortie, peut facilement atteindre les 25 euros. C'est un budget. Sachez qu'il est possible de lire des grands classiques gratuitement. Oui oui, vous avez bien entendu. Il est possible de lire gratuitement les livres tombés dans le domaine public sur une tablette, sur un smartphone ou sur un ordinateur. Ce sont des vieux livres, donc la langue n'est pas des plus accessibles. Alors, un conseil, accrochez-vous. L'achat de seconde main est à la mode. Les friperies, c'est un peu la tendance du moment. Sachez que, comme les vêtements, les livres s'achètent aussi d'occasion. C'est une alternative intéressante qui permet au lecteur de lire beaucoup moins cher. L'avantage aussi, c'est que le livre a une histoire. Je me suis rendue sur le marché de la place d'Arras pour y interroger un vendeur de livres d'occasion.
Vous vendez des livres sur le marché, ça fait combien de temps que vous faites ça?
À Arras, ça fait 9 ans.
La plupart de votre clientèle sont-ils des personnes déjà passionnées ou parfois ce sont peut-être des personnes qui ne s'intéressent pas aux livres et qui s'arrêtent?
Au fil du temps, le nombre de ventes sur le passage et au badaud se raréfie car le livre intéresse de moins en moins de gens, quoi qu'on en dise. Et donc j'ai affaire de plus en plus à une clientèle de gens qui savent ce qu'est un livre et qui ont un centre d'intérêt dès le départ et dès leur arrivée.
Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles alternatives pour lire, comme le livre audio ou le livre numérique?
Ah, le livre audio, c'est bien pour les déficients visuels, c'est très sympathique pour eux. Quant au livre numérique, je suis un maniaque de la possession du papier, de la possession dans un premier temps et du papier dans un deuxième temps. Donc, c'est pas trop mon truc.
Quels sont vos types de lecture à vous?
Totalement éclectique, puisque j'achète 300 à 500 livres par mois, donc je lis ce qui me plaît dedans.
Et vous achetez essentiellement vos livres d'occasion ou neufs?
Vu ma profession, je n'achète quasiment jamais de livres neufs. C'est un peu logique, quelque part.
Et que pensez-vous de l'arrivée du livre de poche qui avait fait polémique dès ses débuts? Il y avait des personnes qui étaient pour, d'autres personnes qui étaient contre. Est-ce que vous pensez que ça a été une démocratisation de la lecture?
C'était une grande avancée, c'était l'époque où les gens lisaient encore, voilà.
Donc vous êtes un petit peu pessimiste pour la suite? Vous pensez que les gens lisent de moins en moins et qu'on va vers de plus en plus une sorte d'ennui du livre?
Je pense que le livre qui était un article de consommation va devenir un article de collection, voilà, et que la lecture va se diriger vers l'utilitaire et vers internet, faut pas se leurrer.
De par ces plusieurs témoignages, nous avons pu constater que le livre évolue. Autrefois réservé à une minorité, il séduit aujourd'hui par sa diversité. Cette évolution permettra-t-elle de toucher plus de lecteurs? L'histoire nous le dira.